Bonjour et bienvenue dans Certains Lama Show, l'émission qui déterre les films à la sortie. Bonjour Thierry.
Salut Thomas.
Ouh, quel ton horrifique. On va voir Cimetière, dont l'orthographe en lui-même fait déjà très peur.
Exactement.
Et c'est voulu.
Il paraît.
C'est pas Stephen King qui sait pas écrire, hein. C'est pas
vrai. Non, parce que le titre original est Pet Cemetery, et Cemetery est également écrit avec un S.
Comme si c'était un enfant qui l'avait écrit.
Exactement.
Un peu comme Police, de My One. Cimetière inspiré d'un roman de Stephen King, réalisé par Kevin Colch et Denis Wiedemeyer, avec Jason Clarke, Amy Seitmet, John Lithgow, et alors la jeune Jetée Lawrence. Je dis Jetée parce qu'il y a un accent. Une histoire de cimetière d'animaux. Thierry, toi qui as lu le bouquin, est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Salut tout le monde, c'est Thierry en aparté. Je viens pour m'excuser auprès des fans du bouquin Cimetière de Stephen King. Donc là, dans l'épisode, je m'apprête à faire un résumé. Et là, je suis en train de dérocher, c'est une catastrophe. Je dis absolument n'importe quoi. Parce que Cimetière, c'est vraiment un souvenir lointain. Je l'ai lu il y a longtemps. Donc voilà, mes souvenirs sont très érodés. J'en discute même d'ailleurs après la bande-annonce. Mais du coup, je vais laisser le résumé tel que je l'avais fait sur le moment parce qu'au final, c'est marrant. Mais dites-vous que je dis plein de conneries.
Alors, moi, j'ai lu le bouquin il y a longtemps, donc ça reste des choses vagues, donc je ne pouvais pas pouvoir être aussi pertinent sur le prénom des personnages ou quoi que ce soit. Si je me souviens bien, c'est évidemment l'histoire d'un écrivain qui doit sûrement avoir la page blanche ou un truc comme ça, voilà, qui vit dans une maison un peu reculée. Je ne sais pas s'il vient d'arriver ou pas. Et en gros, il est avec son enfant. Et je ne suis pas certain qu'il ait encore sa femme, mais peut-être que si. Et ils ont un deuil, donc c'est le deuil d'un animal, je sais plus si c'est un chien ou un chat, mais tu vois, je suis quand même assez vague dans mes souvenirs. Et du coup, quelqu'un du village va dire à cet homme qu'il y a un cimetière indien qui est plombé en une colline pas très très loin, et qu'en gros, s'il l'enterre, il va se passer quelque chose de bien pour lui. Donc il va enterrer, le chat revient à la vie, et en gros, ça fout un peu le bordel à partir de là, puisque ce qui revient à la vie n'est pas vraiment son chat, mais une espèce d'entité un peu bizarre comme un mort vivant en fait, qui va créer des soucis. Et d'autres péripéties que je vais taire, puisque je ne me souviens pas non plus de tout.
Alors pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas le résultat ? Parce qu'on a découvert le film qu'on allait voir ce soir au dernier moment. On a eu beaucoup de boulot, on a soumis le choix du film de ce soir au vote du public. Et il se trouve que nos amis du podcast Le Roi Stephen sont tombés sur l'info.
Et on ne sait vraiment pas pourquoi ils n'ont pas choisi Tanguy le Retour, eux qui sont pourtant fans.
Ouais, c'est bizarre quoi. Ouais. Pourtant, il y a une histoire d'enfant aussi. Est-ce que tu attends quelque chose de particulier de ce film ?
Alors, il y avait déjà une adaptation par Mary Lambert, que je n'ai pas vue, qui a un certain succès. Enfin, en gros, voilà, j'en entends souvent les mêmes choses. Il y en a qui adorent, il y en a qui disent que ça a beaucoup vieilli et que c'est pas forcément plus mal d'en faire un coup de neuf. Ce qui me ferait peur, c'est que ce soit pas une nouvelle adaptation, mais un remake du film, en fait. Parce que moi, j'avais ce reproche à faire à la pièce de théâtre Misery, qui est aussi adaptée de Stephen King, sauf que c'était une adaptation stricto sensu du film. Et non pas du bouquin. Et du coup, voilà, moi j'ai envie de voir une adaptation du bouquin. Et qui soit nouvelle, qui soit neuve, qui prenne des partis pris, comme ils ont fait avec ça. Ça qui s'affranchissait totalement du téléfilm qui, qu'on l'admette ou pas, a vraiment mal vieilli. Voilà, donc j'attends. C'est un bouquin que j'aimais beaucoup, qui m'a beaucoup marqué, parce que vraiment là, on a l'impression que je m'en rappelle pas tant que ça, et que c'est pas quelque chose que j'ai tant apprécié vu la façon dont j'en parle, mais je l'ai lu vraiment très jeune. Et c'est un des bouquins qui m'avait vraiment énormément marqué et qui me marque encore aujourd'hui parce que j'avais eu vraiment beaucoup de ressentis en le lisant. Donc en soi, j'espère ressortir de là en ayant eu beaucoup d'émotions fortes.
Ok, alors moi je suis un peu craintif, je suis semi-craintif. Bon déjà les films d'horreur c'est pas trop mon kiff de base, donc voilà. Hein. C'est un film avec Jason Clarke.
C'est vrai qu'il y a Jason Clarke et ça c'est pas bon signe.
Hein. Moi je me souviens de Terminator, je crois que c'est le dernier film que j'ai vu avec lui.
Ah il est dans la planète des singes, le second. Je sais plus comment il s'appelait, qui s'était pas très bien non plus, et lui particulièrement.
Et puis oui, les deux réalisateurs n'ont pas fait grand chose avant. Ils ont fait surtout un film, ils ont fait Starry Eyes, qui s'est fait remarquer en festival quand même. Donc pourquoi pas, j'ai pas vu le premier film. Allez, on peut leur donner leur chance. Voyons ce que ça donne. On déterre la bande-annonce et on y va. In the woods today, LA discovered a charming little landmark. Pet
cemetery. Place to bury our pets and remember them. Might seem scary, but it's not. Perfectly natural. Just like dying is natural.
whole town's been using this place for generations. Folks make a kind of ritual out of it. It's not some campfire story.
Saw these in the trees up there.
They're warnings. The local tribes carved them before they fled. They fear that place. There's something up there. Something that dates way back. Those woods belong to something else. Something.
That cat was dead.
That brings things back.
Church?
I know what you're thinking of doing. But they don't come back the same.
Alors tu l'avais dit, Thierry, en intro, c'est la deuxième adaptation cinématographique de ce roman. Est-ce qu'il fallait le ressusciter une deuxième fois?
C'est marrant que tu commences par là. Alors on va s'affranchir un peu de ce que j'avais dit dans le synopsis, parce que soit vraiment je me suis pas mal trompé, soit ça a été très réadapté, parce qu'il y avait des éléments, mais on est loin de... Alors de là à savoir est-ce que c'est un remake intéressant, est-ce que ça suit le film qui avait déjà été fait, ça j'en sais rien, donc on va le juger comme une adaptation faite en 2019. Je sais pas si ça valait le coup de le ressusciter, moi j'ai pas trouvé ça terrible, sans crier à la catastrophe, je m'en fous en fait. Je m'en fous royalement de ce film, il m'a rien attiré comme émotion. Je trouve qu'il y a 36 000 choses qui vont pas, malgré un scénario qui me plaît, en fait. Et du coup, est-ce que c'est à sauver? Non, ça aurait juste pas dû être, parce qu'en soi, le scénario a beau être intéressant, le rendu me convainc pas du tout, et on va en parler après.
Je m'attendais pas à grand chose en allant au film, donc je peux pas ressortir déçu. Et je trouve qu'il y a des bons passages. Après, je trouve qu'aussi il y a des passages qui servent à rien, je pense qu'il y a du gras, je pense qu'il y a des trucs à couper, je pense qu'il y a des trucs à revoir dans le film. Je sais pas si ça vient du scénario original, de ce qui a été décidé ensuite, mais dans l'ensemble, il y a des scènes qui sont très fortes, je dirais la scène de l'anniversaire, pour pas en dire plus.
Il y a des scènes qui sont fortes, et à la fois le problème c'est que le film passe son temps à nous dire qu'elles vont arriver, et il passe son temps à nous envoyer des éléments à la gueule beaucoup trop longtemps avant, pour qu'on soit pas surpris en fait. Et ça c'est l'énorme reproche que j'ai à faire au film en fait. Il y a un caractère de mise en scène qui est très actuel. Et du coup je vais donner un grand conseil à tous les scénaristes et réalisateurs en herbe, arrêtez avec ça, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Le film s'ouvre sur quelque chose, voilà, je suis même pas sûr que ce soit un spoil, ça m'étonnerait pas que ce soit dans la bande-annonce. On voit une maison en feu. Alors quand tu vois ça, tu te dis quoi? Ah ben va y avoir est-ce que la maison là actuellement est en feu et qu'on démarre là-dessus? Ah non, finalement il se passe autre chose. Ah donc on nous montre la fin, va y avoir une maison en feu, et donc du coup le spectateur va se dire oh là là, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Arrêtez avec ça, c'est un cliché affreux, c'est chiant, c'est comme mettre les quarts de bande-annonce avant de balancer la bande-annonce. Bordel, qu'est-ce qui vous arrive quoi? On peut plus commencer ces films par un cadavre où oh regardez je suis mort, et maintenant on se dit ah merde il est pas mort, on va se demander comment est-ce qu'il a pu. C'est chiant, c'est un cliché de merde. Ça a marché que 3-4 fois au cinéma, non, ça suffit quoi.
J'allais dire exactement ça, c'est le pré-teaser avant la bande-annonce sur internet.
C'est ça, et du coup le film passe son temps à faire ça, dès le début, dès les 3 premières minutes, il te donne tous les éléments, il te dit voilà, regarde, ça fait peur, ah bah ça tu vas voir, à un moment on va te le remettre et ça va te faire peur. Donc du coup, le film est sur des gros rails, et il te donne ce qu'il t'a dit que t'allais voir. Alors qu'il est pas censé te dire ce que tu dois voir, tu dois le voir. Et ça, mais j'ai l'impression qu'on sait plus, enfin, les gens qui ont fait ce film ne savent pas faire un film.
C'est un film qui veut faire monter une tension, qui veut te raconter une histoire, qui veut te faire un truc. Le problème, c'est que ça prend pas. Moi, au début, donc j'ai vu le teaser, je me suis dit ah bon, donc on va avoir une grosse scène sur la fin, va y avoir des flammes, va y avoir du sang sur les murs. On s'attend à un gros final, tu vois, à une grosse deuxième moitié de film. C'est ça que ça m'annonce, c'est ça que ça me vend. Et on l'a pas. Ça, non, ça, je parlerai pas du scénario, mais on l'a pas. C'est ce qu'on nous promet là, en fait. Eh bien, on verra pas beaucoup plus. Ça commence à poser des trucs petit à petit. Il y a une montée en tension. Au moment, je me dis, ah, il commence à y avoir une efficacité. Et puis, ça ne décolle pas plus que ça. Et après, on reste plan-plan pendant tout le reste du film. On essaye de mettre de l'attention, mais ça ne prend pas forcément. Il y a quand même un final intéressant niveau scénario qu'on ne dévoilera pas si vous n'avez pas lu ni vu les précédents. Et je ne sais même pas si c'est les mêmes qu'avant. Je ne sais pas du tout. Mais là, pour le coup, moi, j'ai aimé le final. Voilà, la fin.
Enfin, c'est sympa, comme je te dis, moi j'aime bien les éléments scénaristiques, j'aime pas trop la façon dont on me le montre. Tu dis que ça essaie de monter l'attention, pour moi, même pas en fait. Le truc c'est que, alors, Une fois de plus, je me souviens pas de comment il construit Cimetière, mais là, je suis en train de continuer à lire des Stephen King. Il construit toujours sa narration de la même manière. Enfin, quand il fait pas du roman fantastique en mode SF, ou quand il n'est pas dans des mondes parallèles, ou quand il n'est pas dans autre chose, quand c'est l'immersion du fantastique dans le quotidien, il va y avoir, allez, 100-150 pages sur la vie de ces personnes, toute leur construction, leur passif, et ensuite le fantastique s'immisce peu à peu. Là, on est face à une famille où il y a certains passifs sur un des personnages qui n'est même pas le personnage principal, qui aurait dû l'être, parce que clairement ce personnage est plus intéressant que celui qu'on nous met en avant, et dès le début, on te dit tu vas avoir peur, dès le début ces personnes-là ont des apparitions, dès le début il se passe des choses en fait, et dès le début du film, il y a des jumpscares, il y a des éléments de mise en scène qui sont directement dans l'horreur, et donc en fait on ne nous les présente pas ces personnages, on nous les met directement, ils viennent de déménager et ça fait très peur, la ville est hantée, c'est presque ça.
C'est tellement ça, il y a une ville hantée.
Il faut instaurer la vie de ces gens avant, pour les faire tomber peu à peu dans le truc. Je parlais d'un film pendant la séance, après je te laisse parler, qui moi marche très bien pour ça, que toi tu as trouvé long et chiant, et qui en soi est long et chiant, mais pour moi pour les bonnes raisons, c'est Hérédité. Parce que Hérédité, on va nous montrer lentement le quotidien d'une famille, et ça se dégrade au fur et à mesure. Et on a besoin, pour s'attacher à ces personnages-là, de ne pas nous les mettre directement dans ce cadre-là, de nous dire c'est des gens normaux à qui il va arriver quelque chose d'assez extraordinaire. Et là, dès le début, il se passe 36 000 choses, quoi.
Sur la mise en scène, je trouve qu'il y a pas mal de classicisme aussi. Il n'y a aucun moment où je me suis dit, tiens, c'est original. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses. Quand on est dans l'onirique, on a le coup du reflet pour dire, attention, là, c'est un rêve, mon ami. On n'est pas perdu. Il y a des endroits, si, il y a des moments, il y a des passages où on ne sait plus si on est dans le rêve ou dans l'illusion ou quoi. Et moi, je trouve que ça casse l'ambiance. Ça casse le rythme parce que l'histoire en elle-même n'a pas besoin de ces passages-là. Tu parlais d'un personnage qu'on développe et un qu'on ne développe pas. On va suivre un personnage principal avec un passif qu'on ne développe pas, personnage secondaire avec un passif qu'on va développer à fond la caisse. Et c'est vrai que le passif du personnage secondaire, ça n'apporte tellement rien. Ça va apporter, si, ça va apporter des scènes. Ce personnage-là va avoir des illusions, va avoir des visions. Ça permet d'avoir un côté dérangeant, ça permet d'avoir un côté un peu glauque, un petit frisson de malaise. Enfin, un petit frisson de malaise. Je dis ça parce qu'il y a eu des petits rires gênés dans la salle. C'est ça, c'est que on n'a pas eu du oh ! On a eu des petits rires. Et alors, je sais pas, je suppose que ce sont quelqu'un qui a eu peur et qui a rigolé d'avoir peur de ça, ou du petit geste et le copain qui a réécouté. Je sais pas du tout. Mais en fait, il y a eu des. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de cris de peur dans la salle. Il y a eu juste des moments des petits rires gênés.
Dans la mise en scène, ouais, tu parlais de classicisme, c'est du classicisme qui à la fois donc va pas déranger puisque bon au final c'est balisé donc tout roule et ne surprend pas, mais aussi c'est pas, il y a des moments où c'est pas maîtrisé, quand c'est pas maîtrisé ça se voit, donc il y a certains effets de montage qui sont pas toujours cohérents même dans la discussion, où des fois il va suivre un personnage où il te fait croire qu'il te fait un travelling et finalement il te fait des coupes hyper dures et ça te bloque dans l'action. Et moi surtout ce qui m'a dérangé c'est le travail sur la lumière. Alors il y a beaucoup de scènes qui se passent de nuit. C'est pas forcément un souci, mais alors on n'est pas dans Barry Lyndon, quoi, donc c'est pas la peine de nous faire croire qu'ils ont fait ça à la lumière naturelle. Non, c'est juste qu'ils ont fait ça avec une lumière dégueulasse. Faire un effet nuit, c'est pas faire un effet flou. Là, c'était flou avec du brouillard tout le temps, enfin, pour dire regardez, c'est la nuit, ça se passe de nuit, on distingue plus rien, ça devient.
Alors, il y a peut-être aussi le fait que la salle aussi soit sombre et sous-exposée, mais le film est censé être réglé pour ça.
Qu'est-ce que je peux dire de plus à part que Jason Clarke, je maintiens. Ce mec n'était pas impliqué du tout dans ce projet, il s'en fout quoi, enfin, le mec est là sans être là. À la limite j'étais content de revoir John Lithgow, que j'aime beaucoup, hein, même si j'aimerais bien qu'il fasse un jour autre chose que des seconds rôles, parce que le John Lithgow de Palma me manque, même s'il est âgé maintenant. Enfin voilà quoi, sinon voilà, en soi, il n'y a pas, d'un point de vue factuel, technique, à part ça, il n'y a pas tant de défauts, c'est sur des roulettes quoi, je veux dire, les mecs sont juste contentés de filmer ce qu'il y avait à filmer quoi, mais sans implication artistique réelle quoi, à part dans les maquillages à la limite, qui sont sympas.
Moi, je sauverais la petite fille quand même.
Oui, voilà.
Alors, la petite fille qui, moi, je trouvais bien très très bon casting de la petite fille.
Je trouve que c'était très cliché. Elle le fait bien, mais c'est cliché à souhait, quoi.
Mais on retourne sur pas d'originalité, quoi. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un bouquin des années 80 qui a déjà été adapté et que ça a dû inspirer beaucoup de films déjà du genre?
Peut-être aussi.
Et que Stephen King est déjà pris et multi-repris et que donc ça inspire énormément. Et c'est pour ça que le personnage n'est pas non plus si original et qu'on est dans les clichés à fond. Il y a peut-être ça. Est-ce qu'on a autre chose à dire avant de rentrer dans la spoiler zone?
Non, entrons en spoil. Donc si vous avez envie de voir le film malgré ce qu'on est en train de vous dire, arrêtez-vous là. Et écoutez la fin de l'épisode une fois que vous l'aurez vu. Donc regardez-le vite pour nous écouter jusqu'au bout.
Vous entrez dans la spoiler zone. Attention. Vous ne pourrez plus vous plaindre du spoiler à présent, maintenant on vous aura prévenu.
Si vous voulez des détails sur le bouquin plus en détail et vous faire spoiler allègrement tous les détails du livre, je vous renvoie sur l'épisode du Roi Stéphane, un podcast ami. Nous on sort d'un film d'1h40, moi franchement ça va, ça s'est bien passé, 1h40, c'était assez court, on aurait pu couper des scènes, ça aurait pu faire 1h30. Hein. Il y a un cimetière d'animaux qui est à côté d'une espèce de barrière bizarre, et de l'autre côté de la barrière il y a une espèce de zone possédée par les esprits, hein, à forte puissance spirituelle, qui était hantée, que les Indiens fuyaient, et lorsqu'on va enterrer un animal là-bas, eh bien il ressuscite. Seulement arrive un moment où la petite fille se fait renverser par un camion, la scène la plus forte du film à mon avis, hein. Le petit côté double effet qui se coule, j'ai bien aimé.
Je te suis sur le double effet qui se coule parce que ce qui est intéressant, c'est que donc dans le gamin, donc voilà, mon souvenir était à peu près était bien le bon, même si moi je me rappelais plus qu'il y avait une femme et une petite fille. Mais dans le bouquin, c'est le gamin, c'est le petit gamin, le Gage, donc du coup, qui se fait tuer. Et là, la scène est menée de manière à ce que tu penses que ce soit lui qui va se faire avoir, et finalement, non, le camion l'évite et c'est elle qui se fait avoir. Ça, c'est sympa. C'est vrai que donc en effet, c'est un double effet qui se coule. Après, bon, la scène, étant donné que, bah, comme je disais avant, quand on monte les aimants, le camion, on te le montre, puisqu'on te le met en jumpscare avant qu'il traverse la route. Ouais, donc du coup, c'est gros. En fait, dès qu'on voit qu'elle va sur la route, tu sais qu'il y a le camion. Après, tu peux t'en douter, tu peux te douter qu'il va y avoir un truc qui va la heurter à ce moment-là, certes. Mais tu as déjà vu le camion, tu sais même déjà exactement lequel c'est. Bon, certes, il le mentionne, que c'est une route où il y a souvent les camions de cette même société qui passent à fond la caisse et compagnie, mais peut-être que juste le mentionner aurait suffi. On n'était pas obligé de faire un jumpscare avant là-dessus, mais bref. Du coup, pour moi, c'est pas la scène la plus forte, mais cela dit, c'est vrai que c'est une scène forte.
D'ailleurs, c'est assez troublant parce que Non, le camion apparaît deux fois en jumpscare assez sale, enfin assez violent. Hey, regarde, t'as peur, voici un jumpscare. Et quand il arrive, c'est une menace lente qu'on voit arriver de loin. Alors que quand on voit la route et qu'on voit qu'il y a un truc sur la route, on sait que le camion va arriver.
Oui.
Donc un jumpscare en même temps aurait pas été utile ici parce qu'on savait que le camion allait arriver. Là, il aurait pas pu nous surprendre parce qu'on sait par où il arrive. Je pense que c'est aussi pas mal de mettre la petite fille à la place du garçon pour faire la ressusciter, pour faire la personne hantée, parce que du coup, bah, elle joue. C'est plus facile de la diriger.
Si le changement n'a pas été pour justement détourner un peu la narration du bouquin, mais vraiment pour des choix de jeu d'acteur et du fait que bah, c'est plus facile de diriger la gamine, c'est un très bon choix. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Alors du coup, là, on vient de vérifier un petit peu vite fait avec la trame du bouquin. Donc oui, en effet, ça suit plutôt bien le bouquin, a priori, en tout cas dans les trucs. Et du coup, en fait, les éléments qui, moi, me dérangent scénaristiquement dans le film, ce sont des éléments du bouquin qui me dérangent. Et c'est pas parce que c'est écrit dans le bouquin que c'est forcément bien, même si peut-être que dans le bouquin, c'est expliqué différemment et qu'avec beaucoup plus de pages d'explication, ça passe. Donc moi, il y a deux trucs qui me dérange énormément. Donc voilà, c'est ce que je disais juste avant, c'est le côté dès l'instant qu'ils arrivent dans la ville, tout déjà a des problèmes et compagnie. Donc ce qui me dérange, c'est donc l'apparition du jeune garçon qui se fait tuer au début dans les rêves, puis ensuite justement tout simplement des apparitions dans l'esprit du père. Pourquoi ? Parce que en fait, on est dans un stade où il s'est rien passé encore. Même le chat qui est le premier enterré, qui va revenir et qui du coup va commencer à apporter les problèmes à cette famille, il n'est pas encore mort. On a un gars qui s'est fait certes tuer, le gars est médecin, enfin le personnage principal est médecin, il va essayer de le sauver, il va pas y arriver. Et tout à coup ce mec là va lui apparaître et lui dire ne franchis pas la barrière. Sauf que cette apparition là, scénaristiquement, elle a aucun sens. Si le chat était mort, qu'il savait pas comment faire pour rendre sa fille heureuse, qu'on lui avait mentionné les cimetières, qu'il y allait pas en mode non, c'est pas très éthique, et que là tout à coup il a ce gars qui lui rappelle ne franchis pas cette barrière, que le gars craque, j'aurais trouvé ça bien plus crédible. Donc pareil, peut-être que c'est comme ça dans le bouquin, mais je trouve ça un peu con. On en revient donc au personnage donc, de la mère qui, elle, a un passif. On nous raconte son passif, elle a un traumatisme. Elle, ça aurait été super crédible qu'elle soit la personne qui veuille enterrer le chat et son enfant par peur de perdre quelqu'un, parce qu'elle a déjà perdu quelqu'un. Le père, on connaît pas son passé. Le père, c'est juste un mec lambda, un médecin qui a juste vu un gars crever, qui, ben, comme il en voit des milliers parce que c'est son métier, enfin des milliers, j'espère pas, mais c'est son métier. Il a aucune raison de faire ce qu'il fait et son impact émotionnel est trop brusque et c'est pas crédible.
Alors, le personnage du père a un truc intéressant, c'est que c'est censé être le mec cartésien du couple. C'est-à-dire qu'on a une fille et on a une femme qui est beaucoup dans la croyance et beaucoup dans le paradis, l'enfer, le dieu et le rapport avec la mort du fait de son passif aussi avec sa sœur, qu'elle a laissé mourir dans un passe-plat. Donc bref, une histoire glauque en fait, mais qui prête en fait plus à sourire qu'autre chose, hélas, avec son traitement. Et donc là, on a une ambivalence, le cartésien contre celle qui a des croyances. Il y a un truc intéressant au fait que ça soit le cartésien qui soit bousculé dans ses convictions à cause de ses visions, à cause de ce qu'il voit. Après, ça arrive peut-être un peu tôt, mais oui, ça te dit que tout est hanté. Moi, il y a des problèmes de scénario, c'est pourquoi est-ce que ce gros taré de voisin, alors qu'il sait pertinemment qu'il ne faut pas y aller, il va quand même enterrer ce putain de chat de l'autre côté dans la zone hantée. Parce que le père veuille ressusciter sa fille, il le fasse, bon, ben ça, ok, il n'y a pas de souci, quoi. Mais que les deux, ils ont des fantômes partout qui leur disent, l'autre, il a un passé, il est au courant de toute l'histoire, la malédiction, tout ça, et putain, il y va, quoi. Et il a l'expérience avec son chien, ce con, quoi.
Il justifie ça en disant que son chien avait déjà mauvais caractère et que quand il est revenu, il était encore plus belliqueux, plus violent et que le chat étant gentil, il s'est dit cette fois-ci ce sera différent. Mais sauf que c'est une phrase en l'air comme ça et c'est pas justifié du tout. Alors toi tu disais que justement on aurait pu couper faire 1h30, bah moi je pense plutôt le contraire. Pour moi il manque des passages et il y a un autre passage qui me dérange et c'est encore autour du voisin. Donc une fois que la gamine revient, elle explique très rapidement, et c'est très mal expliqué, qu'elle est passée dans le royaume des morts, qu'elle a eu connaissance des autres morts, et du coup elle va buter le voisin parce que il aurait peut-être maltraité sa femme et c'est peut-être même lui qui l'aurait tué. Sauf que du coup, le gros problème de ça, c'est que quand elle va voir par exemple sa propre mère, qu'elle essaie de la buter et qu'elle lui dit ce que t'as fait à ta sœur, c'est dégueulasse, tu l'as laissé crever, t'en as pas pris soin et compagnie, c'est justifié parce qu'on nous a montré des flashbacks, parce qu'on sait le passif de la mère. Le voisin, le seul moment où il en parle, c'est juste « et ta femme elle est où ?»« Bah ma femme elle est morte d'une longue maladie. » Et c'est tout. On nous aurait mis d'autres passages où il en parle, où il explique les détails de la maladie, et là, elle peut le traiter de menteur. Ce serait tout à fait crédible, mais c'est tellement mentionné vite fait qu'on comprend même pas en fait pourquoi est-ce qu'elle revient. Alors, et tu peux pas te dire toi en tant que spectateur, ah ouais, c'est vrai, mais en réalité, il avait, c'était un salopard ce mec-là, et c'est pour ça qu'il avait ce danger. Non, parce qu'il y a rien qui le prouve et il y a rien qui prouve le contraire, et on s'attache pas du tout à ça. Et du coup, le fait qu'elle reparte le buter comme ça, ça n'a aucun sens et ça sert à rien.
Ben, c'est un témoin, c'est un mec qui va l'empêcher de faire ce qu'elle veut faire et qui va empêcher ses plans.
Voilà.
Mais juste c'est ça. Juste pour ça, c'est juste mécanique. Ah, oui.
Mais juste ça. Mais alors, fallait peut-être pas rajouter cette espèce de surexplication si on a décidé de pas développer ce thème-là. Peut-être que pareil, ça y est, qu'il fallait le mettre. Mais s'il faut le mettre, il faut bien le mettre.
C'est comme l'histoire de la mère, là, avec le truc avec sa sœur. Dans le fil de l'histoire principale, ça apporte tellement peu et c'est tellement pas exploité que je trouve ça dommage. En fait, tout ce qu'elle a, c'est des hallucinations. Et c'est peut-être un problème aussi, c'est que les principaux fantastiques, on se dit, putain, en fait, c'est de l'hallucination. C'est même parfois le père, quand il a ses trucs, on se dit, bon, en fait, moi, je plains les gamins parce qu'ils ont des parents complètement maboules qui voient des trucs. Entre celle qui culpabilise sur la mort de sa sœur depuis des années et que ça la bloque, et le mec qui commence à voir des morts partout, on se dit, oulala, ça va pas dans la famille.
Moi, j'ai très envie de relire le bouquin puisque je l'avais adoré, mais j'étais très petit, donc j'ai envie de le relire pour voir si je vais en avoir justement cet avis scénaristique qui me convient absolument pas, ou si dans le bouquin bah, ça passe beaucoup mieux parce que il y a sûrement 200 pages de plus là-dessus. Mais oui, non, ça vaut pas du tout le coup de perdre son temps à aller voir Cimetière, quoi.
Cimetière, ah là 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 là. Vous l'avez compris, n'enterrez pas ce DVD, il risque de revenir vous hanter. C'était Certains les Machos. Merci Thierry.
Merci Thomas.
Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Si vous avez un avis différent sur le film ou si vous partagez notre avis, eh bien dites-nous-le sur les réseaux sociaux. Clac avec deux A, Clac Podcast, sur Twitter, Facebook ou Instagram. Et vous pouvez mettre aussi un petit commentaire avec plein d'étoiles sur iTunes. Ça nous fera plaisir, ça fera remonter la visibilité. On se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode. On vous embrasse. Bisous, bisous, bisous.
Bisous.